CFM, en Tarn-et-Garonne, le MAG.
Bonjour tout le monde, merci d'écouter CFM Radio, c'est l'heure de votre magazine en Tarn-et-Garonne, magazine Montalbanais, et c'est politique aujourd'hui avec Kader Youb. Bonjour Kader.
Bonjour Aurélien, bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle séquence de l'émission Politiquement Vote sur CFM Radio avec notre invitée aujourd'hui, donc Brigitte Barège, présidente du Grand Montauban et maire de Montauban. Bonjour Madame Barège et bienvenue à vous sur CFM Radio.
Bonjour, bienvenue à vous d'abord Kader et à toute l'équipe, mais aussi à tous nos auditeurs. C'est toujours un plaisir.
Alors, une première question, si vous permettez, à la présidente des Républicains du Tarn-et-Garonne que vous êtes. Vos trois leaders, Éric Ciotti, Olivier Marleix et Bruno Retailleau, ont dévoilé cette semaine le contenu de deux textes de loi sur l'immigration, avec un changement total de paradigme, un changement total de cadre en matière de politique migratoire, un projet de rupture, si l'année, pour mettre un coup d'arrêt, selon leurs auteurs, à l'immigration de masse. Quel est cet objectif, Madame Barège?
D'abord, c'est rappeler aussi que donc ils ont été lassés d'attendre le projet de loi d'immigration promis depuis plus d'un an par Macron et par Darmanin, qui a encore reporté à octobre l'étude de ce projet de loi qui était vraiment réduit à peau de chagrin. Donc ils ont pris l'initiative et je crois que ils ont bien fait parce que finalement, il est temps qu'on se préoccupe d'un sujet qui est vraiment mal perçu par 80% des Français. Et si on en croit les sondages, dans les derniers sondages, donc les Français soutiennent très largement les propositions dont nous allons parler des Républicains. Donc, il y a deux volets, sans être trop technique, oui. Il y a un volet de réforme constitutionnelle et ce qu'on appelle après une loi organique. La réforme constitutionnelle vise à donner à l'État français plus de souveraineté dans ce domaine de l'immigration.
C'est-à-dire s'affranchir
du droit européen.
Des règles du droit européen.
C'est ça.
On s'y arrête rapidement, Mme Barège. En fait, c'est cette possibilité d'introduire un changement dans la référence au droit européen qui pose question, notamment à vos amis des Républicains, certains, notamment Aurélien Pradier. En fait, c'est une...
Je n'ai pas un grand juriste.
Non, mais c'est un rupture, un changement de paradigme, finalement, parce que vous tournez le dos à votre histoire, à l'histoire de votre famille politique, Madame Barège, sur ce point-là.
Écoutez, je laisse Aurélien Pradier le bénéfice de ses assertions. Je ne pense pas que ce soit un grand spécialiste de la matière, en matière constitutionnelle notamment. Non, simplement, ce qui est un grand changement, ce n'est pas par rapport à notre famille politique, c'est par rapport à notre positionnement sur le plan européen. Dans le traité de Maastricht, nous avons accepté que ce soit l'Europe, le Conseil européen, qui décide de notre politique pénale, de notre politique immigrationnelle et de tant d'autres sujets. Et on aurait dû faire comme les Danois, dont aujourd'hui qui sont cités un exemple et qui sont gérés par des socialistes, par une gauche démocrate. Eh bien, les Danois, à l'époque, ont été plus malins que nous. Ils ont refusé dans un premier temps de signer le traité de Maastricht et ils ont accepté de signer une deuxième mouture où précisément on leur avait laissé leur indépendance et leur souveraineté nationale sur tous ces sujets-là. Donc aujourd'hui, il s'agit bien d'essayer de remettre l'église au milieu du village, de dire qu'il y a des sujets qui relèvent des États. L'État doit être souverain dans ces domaines extrêmement importants qui quand même concernent la protection des Français. La sécurité publique, dont les lois pénales en général, la justice, mais également, évidemment, tout le processus de l'immigration. Aujourd'hui, malheureusement, qu'est-ce qui se passe? On voit bien qu'il y a un flot migratoire qui envahit toute l'Europe, que beaucoup de pays, on le voit bien l'Italie, mais on va parler du Danemark, puisque c'est cité un exemple par tout le monde, s'est emparé du sujet. Autrefois, il n'existait pas. Quand nous avons signé Maastricht en 93, le problème n'était pas là. Aujourd'hui, malheureusement, il est là. Il est très sérieux. Il engendre, quoi qu'on en dise, parce que chez nous, le politiquement correct, ce sujet a été tabou longtemps. On ne voulait pas dire les choses. Il y a un déni de réalité de la part de la gauche. Et si on en est là aujourd'hui, malheureusement, c'est que ce déni de réalité que les Danois, eux, qui sont de gauche pourtant, ont su juguler, ont fait preuve de pragmatisme, finalement, on prouve que ce n'est pas une fatalité. Et que si on sait être sévère à la fois pour les entrées dans notre pays, mais en même temps le retour dans les pays d'origine, il s'agit de quelques mesures simples qu'ils ont mises en place, et puis on peut arriver à retrouver la normale. Aujourd'hui, on est débordé partout. On est débordé sur l'aide médicale d'État,
Justement,
on en viendra tout à l'heure.
Non, mais on va pas, on va pas passer l'émission sur, parce qu'on a d'autres sujets, notamment sur Montauban. Juste pour rester sur ce sujet-là, vous envisagez de priver les clandestins de quasiment toutes les prestations sociales. C'est bien ça, c'est ce qui est sûr.
Pas tout à fait. Non, quand même, faut pas exagérer. Bah, c'est le cas, par contre, des Danois. Donc, je crois que dans le projet, il y a 48 mesures. Hein. Alors, on a parlé de la loi constitutionnelle. Il y a deux sujets. On se débarrasse de la tutelle européenne et en même temps aussi, on permet au président de la République d'avoir recours au référendum pour pouvoir soumettre les projets de loi aux Français. Ça, c'est la partie constitutionnelle. Et la partie donc organique, on va dire, il y a 48 mesures. Alors, je ne vais pas toutes les prendre. Il y en a une à laquelle je suis très attachée.
Mais celle qui vous semble la plus emblématique.
La plus emblématique, c'est le fait qu'on ne peut pas devenir Français sans le vouloir. Ouais. C'est, vous savez, l'automaticité. Vous savez, un enfant né d'étranger qui a 18 ans, automatiquement devient Français. C'était une règle à l'époque que Pasqua avait voulu abolir. Moi-même, je me souviens qu'à la droite populaire, on l'avait soutenue. Il faut qu'on ait le choix. Ces gens-là rejettent la France. Il faut qu'à 18 ans, même 16 ans, hein, dans le projet de loi, on puisse se dire, est-ce que vous souhaitez être français ou pas ? Et c'est important, hein, d'abord pour le jeune qui se construit, et puis c'est important pour notre République. Ça, c'est pour moi très emblématique.
Au travers de ces textes, Madame Barèche...
Sur l'aide médicale d'État aussi, c'est important.
L'aide médicale d'État.
Pardon, je ne dis pas tout, mais celle-là me paraît importante.
On ne peut pas toutes les décliner, ces mesures, mais... philosophiquement, est-ce que vous ne craignez pas finalement de faire exploser ce qu'il restait des digues entre les Républicains et le Rassemblement National ou Reconquête ?
Non, moi je crois que, je m'excuse de reparler encore des Danois, ils ont fait justement ce pari à l'époque parce que justement la gauche qui était au pouvoir depuis très longtemps, vous avez parlé d'État-providence, perdait de plus en plus d'électeurs. Et un beau jour, ils ont dit non, il faut qu'on se ressaisisse. Et ça leur a permis justement de juguler la montée des partis nationalistes dans leur pays. Je pense que si on ose dire ouvrir le débat de façon sensée, pragmatique, voyant la réalité des choses, et moi je peux vous les énumérer en tant qu'élu local, j'avais interpellé Macron à Souillac en 2019 sur ces sujets-là. Les écoles sont débordées avec des enfants qui ne parlent pas français. Nous avons les urgences qui sont débloquées, complètement paralysées avec la médicale d'État de gens qui ne paient pas. Nous avons des prestations sociales qui sont distribuées au-delà de la France avec des fausses cartes d'immatriculation, de cartes vitales, tout part dans des pays étrangers. Il y a de l'ordre à remettre, il y a de la fraude sociale partout. Tous, et ne parlons pas de la sécurité et de la délinquance. Aujourd'hui, pour un oui, pour un non, on poignarde les gens. Encore, on a vu des cas très récemment de l'actualité, mais même à Montauban. Ce qui s'est passé l'autre jour à l'hôpital, il y a un mois à peu près, dont cette infirmière qui a été poignardée. Alors, on vous dit toujours qu'ils sont fous, mais enfin, il n'en demeure pas moins que c'est un vrai problème qui touche. Tous les pans de notre... Je parlais de l'école, je parlais de la santé, je parle du logement social, je peux parler de la sécurité. Par exemple, ces mineurs prétendument isolés et prétendument mineurs qui nous posent problème même à Montauban, qu'on passe notre temps à ramener dans les foyers d'accueil, qu'on trouve en train de dealer, qui génèrent de l'insécurité. Je pense que c'est désagréable d'en parler, peut-être, pour certains, mais je crois que si on n'affronte pas cette réalité, je suis très inquiète pour l'avenir de notre pays et très inquiète pour l'avenir des partis républicains en général.
Général. On en reparlera de tout ça si vous êtes d'accord, Mme Barège, une fois que les lois auront été portées au Parlement. On passe à Montauban, si vous êtes d'accord. Un mot sur l'actualité, c'est le Rio, la célèbre salle de spectacle montalbanaise qui clôture son existence ce soir, à 18h d'ailleurs. J'en profite pour signaler ce concert qui aura lieu à
18h. Oui, ce concert ce soir. Oui.
L'association doit déménager avant le 30 juin et va provisoirement s'installer à Eurythmie.
On ne peut pas rêver mieux. Hein. Magnifique salle de spectacle.
Magnifique salle de spectacle, mais le projet de construction, alors...
était bien avancé.
Très rapidement.
Alors, c'est un marché global de performance. Vous savez que nous faisons beaucoup ça aujourd'hui. Ce sont des marchés où on construit, mais en même temps, on a un objectif, c'est de faire des économies d'énergie. Hein. Je le fais court. Hein. Oui. C'est le cas du centre de Ramiro dont nous parlerons peut-être tout à l'heure. Donc, c'est pareil pour cette SMAC, salle de musique actuelle. Donc, ça demande un peu plus de technicité. Donc, nous avons choisi, nous avons lancé le marché pour les architectes. Et donc, dès qu'on aura choisi les équipes, après, on pourra être dans le dialogue compétitif.
Le lieu, ça y est, c'est définitif.
Le lieu est arrêté.
C'est à côté de Eurythmie, c'est ça ?
C'est ça. On a longtemps hésité.
Vous avez hésité, puisque au début, c'était là où il y a le pump track.
Alors, même avant, à l'Arsenal.
Là où le pump track a été inauguré.
Et finalement, on trouve que c'est pas mal parce que ça permet, on va pouvoir profiter d'Eurythmie. déjà des services qu'on a à Eurythmie, des studios, de l'accueil des artistes. On va pouvoir mutualiser un peu mieux cette salle de spectacle qui ne fonctionne pas toujours en salle de spectacle. L'ancienne gare qui sera au milieu, enfin la jonction entre le palais, pratiquement le palais des congrès, et la nouvelle ESMA qui sera à peu près, vous voyez, ça fera comme un U, qui sera à peu près l'endroit où il y a la statue
de
Monsieur Duchin qu'on va déplacer sur un magnifique rond-point à l'entrée de la ville.
D'accord. Et ça, c'est...
Normalement, vous savez, depuis que je suis revenue, malheureusement, après, je dis, mon année de purgatoire, j'ai cravaché, et je remercie les services, je remercie les élus, pour faire en sorte que le programme qu'on avait promis soit réalisé en temps et en heure, c'est-à-dire à la fin du mandat. Vous savez que le mandat se termine en 2026,
oui,
en
mars 2026.
Donc, normalement, ça sera livré en 2025. Donc, la date exacte, au moment où je vous parle, je vous la donnerai plus tard parce que c'est avec les entreprises qu'on aura choisi pour faire ce projet qu'on a, dans le dialogue compétitif, l'agenda. Justement, l'agenda des travaux, la remise des permis de construire, des travaux. Donc, aujourd'hui, le calendrier qu'on leur a imposé déjà, en tout cas dans le projet, dans lequel il y a des charges, c'est que ce soit terminé en 2025.
Alors, il y a eu un autre sujet qui a été au cœur de l'actualité et qui a fait polémique, c'est la fermeture de la maison d'accueil pour les personnes âgées de Sapiac, la MAPA. C'était inéluctable, selon vous, Madame Barèche?
Oui, c'est-à-dire que c'était à l'époque des projets de 94. À l'époque, il manquait de lieu d'accueil pour les personnes âgées. Et c'était un peu à la mode, les MAPA, parce qu'on n'avait pas de maison de retraite à Montauban, parce que c'était une politique départementale. Jean-Michel Baillet l'a construisait partout ailleurs qu'à Montauban. Bref, en tout cas, il y avait deux MAPA, une à Villeneuve et une qui avait été construite donc à Sapiac. Le problème, c'est que avec toute la législation qui a changé depuis, qui a permis qu'on aide davantage les gens pour rester à domicile, la volonté d'accompagner financièrement donc les personnes pour rester chez elles, aujourd'hui, quand on arrive à un établissement à la fin de sa vie, c'est souvent qu'on n'est plus en état de se suffire. Donc ça veut dire un établissement médicalisé, ce qu'on appelle des EHPAD, ce qui n'est pas le cas des MAPA. Les MAPA sont des établissements pour les personnes valides et indépendantes.
Il y a 12 locataires
Très peu, parce qu'on a toujours du mal à remplir à cause de ces problèmes. C'est que normalement...
Est-ce qu'ils seront relogés, madame?
Ah oui, c'est déjà fait. On a jusqu'à la fin de l'année, quand même.
Vous avez... Mais ils sont...
Déjà, on les a accompagnés avec les maisons de retraite de Montauban, enfin, avec les familles, bien entendu. Mais vous savez, on avait des cas de personnes qui étaient en GIR 3. On n'a pas le droit à GIR 3. Vous savez, c'est le taux d'invalidité.
Oui, tout à fait.
Normalement, on devait avoir que des personnes indépendantes. Et par la force des choses, on en avait accepté quelques-unes. C'était la même chose qu'on avait faite pour Azania. On avait une MAPA aussi. C'était mon premier mandat. Et on n'avait que des personnes Alzheimer à l'intérieur, ce qui était un danger pour elles, parce qu'il n'y a pas d'accompagnement de santé, si vous voulez. Il n'y a pas d'infirmière, il n'y a pas de... Et donc, c'était pareil. On avait fait tout ça en douceur.
Et le local, l'actuel MAPA...
Alors, on va le garder, parce que c'est un local qui est bien placé. On a une proposition, ça fait un certain temps que l'hôpital et d'ailleurs la clinique du Pont de Chaume nous demandent de trouver des logements pour les internes en médecine. Parce qu'on a un problème de démographie médicale, vous le savez, on manque de médecins libéraux, mais on en manque aussi dans les structures hospitalières. Et le logement, c'est pour des internes en médecine qui n'ont pas des gros revenus, c'est un sujet. Donc voilà, ça peut être une piste. Au moment où je vous parle, encore rien n'est arrêté. Mais ça pourrait être une solution, en tout cas, qui permettrait de régler un autre problème.
Alors, depuis votre retour de votre purgatoire, selon
mon purgatoire, oui. Décembre 2021, janvier 2022, on va dire.
Est-ce que les relations avec l'opposition, celle de Arnaud Hillon, celle de Rodolphe Portelès, s'est améliorée? Est-ce que vous avez le sentiment? Parce que Arnaud Hillon, c'était notre invité il y a 15 jours ici à ce même micro, mais il n'a pas pleuré, mais il nous a dit que vous ne répondiez pas lorsqu'il vous sollicitait par courrier. C'était le cas pour l'immeuble qu'on appelle Lulu de Nantes, même si ce n'est pas le nom de l'immeuble. Il disait qu'il vous avait envoyé des courriers, que vous ne répondiez pas.
Ce n'est pas sérieux, mais bon, ils sont dans leur rôle d'opposant. Donc, dès qu'il y a un petit souci, un problème, évidemment, immédiatement, ils arrivent avec comme des chevaliers blancs pour nous donner des leçons, ce qu'on aurait dû faire. Ils nous disent toujours qu'on manque d'anticipation. J'adore.
Mais par exemple, pour le Pont Vieux, prenons un exemple.
Il s'est trompé. Il s'est trompé. Le Pont Vieux, on a eu un problème un jour, le premier jour. C'est vrai qu'on avait oublié de rappeler à tout le monde qu'il fallait...
Voilà,
ça c'est vrai. Mais le lendemain, on a immédiatement mis en place, vous savez, une simple mesure, c'est de mettre un feu clignotant. Vous savez, le feu rouge qui est au bas de la côte de Sapiac et au niveau de l'avenue de l'Abbaye, après le pont.
Vous l'avez mis en clignotant ?
Clignotant, ça a tout réglé. Et on a eu de nouveau un problème, mais là, je sais pourquoi, c'était il y a deux jours, parce que, j'avais toujours dit, justement, j'avais anticipé, nous ne démarrons le Pont Vieux quand on aura fini la place place à Cathédrale, parce qu'il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas tous les chantiers en même temps. Et dès qu'on a ouvert la place à Cathédrale, et notamment ce qu'on appelle la rue de l'Hôtel de Ville, la rue Notre-Dame, hein, qui longe la Cathédrale, donc à ce moment-là, je dis « Ok, on peut commencer le Pont Vieux ». Et il y a deux jours, malheureusement, ils ont dû refermer pour mettre les pavés. Et ça, de nouveau, ça a asphyxié. Montauban est un tout petit cœur de ville. Il ne faut pas grand-chose pour changer un problème de circulation.
Nous sommes à mi-2023. Est-ce que vous tenez le cap sur tous les projets que vous avez annoncés lors de la campagne
J'essaie. Oui. Écoutez, j'étais très inquiète quand je suis rentrée.
Qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Par exemple, un exemple. Oui. Le poumon vert, ce que vous avez appelé le poumon vert. Est-ce que les coups de pelle, si
le pour reprendre
le poumon vert, le tour de Montauban,
le jardin de Tour de Ville,
Voilà.
Alors dans le, il y avait deux sujets pour lesquels j'étais très fan. Jardin de Tour de Ville et on appelait ça les rives du Tarn. Enfin, non, c'est pas tout fait. Le parc des rives. Donc, le jardin de Tour de Ville, ça y est, les études sont lancées. On est en train de choisir le cabinet d'architecture qui va nous accompagner. Ce n'est pas qu'un cabinet d'architecture, il faut des paysagistes. Voilà, donc, le cahier des charges a été déposé et les appels d'offres ont été lancés. Donc, dans quelques temps, on va faire le choix de l'entreprise, enfin, de l'entreprise, du groupement d'entreprise.
Alors, pour qu'on comprenne bien, pour nos auditeurs,
c'est quoi le jardin?
Ça veut dire que ce sera du végétal de la place Foch, là où il y a la préfecture actuelle, et qui va, va contourner jusqu'à Prax-Paris, c'est ça?
Alors, si vous voulez, on part du Mouzingue plutôt.
Oui.
On part du Mouzingue, on remonte la côte de la Mandounée, le tonton Flingueur, vous voyez. On va végétaliser un petit peu l'esplanade des fontaines, la partie haute. Parce que c'est vrai qu'elle est un peu minérale, c'était bien à l'époque, mais bon. Ensuite, on considère que les allées de l'Empereur et les Mortariers, c'est déjà vert. Le jardin des plantes, c'est ça la boucle. Hein.
D'accord.
Et là, c'est fait, on va dire. Voilà.
Alors l'idée, c'est quoi? C'est de rafraîchir
On appelle ça renaturer, de rajouter des arbres, des plantes, de la végétation. Il y en a, on ne peut pas se plaindre. Au pied du musée, même la Mandoune, j'habite dans ce coin, mais on va ralentir les voitures, on va faire en sorte qu'on soit comme dans un parc, si vous voulez, ou un jardin, ça s'appelle le jardin de Tour de Ville, qui sera donc circulaire, qui fera une boucle et qui vous amène au jardin des plantes, et puis après, vous repassez. J'espère d'ailleurs que nous aurons la surprise d'avoir enfin notre port au pied du Mouzingue, dans la mesure où l'écluse de Sapiacou, ça y est aussi, si tout va bien, on va assécher l'écluse cette année pour bien voir l'état de celle-ci au niveau de ses fondations, mais l'année prochaine, on va faire les travaux vraiment, et donc on espère bien que donc, tout arrivera en même temps. Quand on aura rénové cette écluse, les bateaux pourront arriver au pied du Mouzingue, donc avec un lien avec le canal. Donc tout ça, ça va dans le sens. Alors,
il vous reste deux ans et demi
à peu près.
Mandat. Vous tiendrez tous les projets que vous avez annoncés?
Alors, celui qui est peut-être sera pas fait entièrement sous ce mandat, c'est le stade de Sapiac. Le centre d'excellence du Ramiro, je vous l'ai dit tout à l'heure, sera livré l'année prochaine, fin 2024, en automne 2024. Sur le stade de Sapiac, par contre, j'ai pas encore les études financières. On va peut-être faire la fameuse tribune derrière les embûtes.
Oui.
Pour faire des loges, parce que justement, pour faire du réceptif, un peu plus pour améliorer le mécénat et donc les recettes du club. Mais également, on en profitera pour faire tomber la piste de vélo, qui n'est pas très jolie, qui prend de la place, et on y mettra des pesages. Enfin, on va essayer d'améliorer là aussi un peu plus de place pour le public, qu'on espère nombreux l'année prochaine.
Hein. Alors, il se dit que Sapiac deviendrait un stade modulable pour accueillir des concerts, notamment le festival Montauban. Est-ce que c'est l'intox?
C'est pas l'intox, c'est une réflexion. C'est-à-dire que quand on a des grands groupes, on n'a pas Johnny, malheureusement, il est mort, mais des grosses machines comme cela, c'est vrai que le Jardin des Plantes n'a que 6000 places, vous le savez, au maximum. Hein. Donc on s'était dit que peut-être, effectivement, ce serait bon d'imaginer qu'à l'occasion, nous puissions avoir une plateforme. Ça, par contre, sera réalisé si j'arrive à le faire pour ce mandat, au moins ça d'ici la fin du mandat. Un genre de plateforme, si vous voulez, face aux embûtes, qui permettra d'accueillir dans le stade Sapiac. Comme ça a été le cas, je ne sais pas si vous avez connu Dire Straits, Jean-Michel Jarre, c'est des moments inoubliables. Hein. Moi, j'étais là avec mes ados à l'époque. Et donc, c'est vrai que là, c'est le seul endroit où on pourrait accueillir des grands. Mais ce ne sera pas tout le festival, ce serait pour des grosses manifestations.
Alors ça, ce sera jusqu'au terme de
ça, c'est le moins sûr, vous voyez, dans mes projets.
Si vous ne finissez pas, vous avez, si je ne m'abuse, annoncé votre candidature, votre éventuelle candidature à un nouveau mandat.
Je l'ai dit, j'étais un peu déçue. C'était une réunion en interne de ma majorité. Je suis toujours désagréablement surprise de voir que le soir même, c'était parti à la dépêche, puis qu'elle a fait la une le lendemain. Bon, je ne comprends pas qu'on n'ait pas encore compris qu'il faut un minimum quand même de discrétion quand on est élu. Bon, c'est comme ça. Donc, en fait, c'est une discussion qu'on avait avec les élus, précisément sur tous les projets, et du mi-mandat notamment. Et donc, certains s'inquiétaient de trouver que la NUPES était très présente sur le terrain. Il y a cette manifestation où justement il y avait M. Lyon, M. Portolès, devant l'école verte de ma pays. Donc, je me disais, on a l'impression qu'ils sont toujours qu'ils sont en campagne. Alors que, quand même, moi, ça me paraît dans 3 ans. Je trouve qu'on a encore un peu de temps. Mais bon, on voit bien que M. Lyon ne rate pas une occasion pour attaquer là où ça fait mal, 56 républiques, vous venez d'en parler. Donc, j'ai dit à mes élus, écoutez, d'abord, l'essentiel, c'est quand même de finir le mandat. Et puis, de toute façon, donc, moi, j'envisage très sérieusement, c'est pas fini, de continuer le prochain mandat. Moi, je pense que c'était attendu par certains. Bon, ça permettait peut-être aussi de mettre des perspectives, de calmer un peu le jeu aussi, voilà.
Parce que vous sentez autour de vous des appétits,
je n'en sais
rien. Y compris dans votre équipe.
Peut-être, je n'en sais rien. Mmh. En tout cas, certains m'avaient dit que c'était bien de me positionner, donc je l'ai fait, et je crois que ça a été plutôt bien accueilli, donc ça m'a confortée. Maintenant, il y a encore 3 ans devant nous, hein. Je crois que pour moi, l'essentiel, avant tout, c'est ce dont on vient de parler, remplir mon mandat, celui-là, ses promesses de 2020, d'arriver au bout de ces 2026, en ayant à peu près réalisé tout ce qui avait été promis, voire même davantage pour certains sujets. Et puis, avec toujours le souci d'essayer d'apporter du bien-être, de la qualité de vie, de l'embellissement à cette ville que j'aime beaucoup, dont nous sommes
fiers. Sur la mobilité et la transition énergétique, certains de vos opposants...
Vous êtes à la pointe, là.
Vous êtes à la pointe.
Ah oui, oui.
Et certains de vos opposants, et ce sera une de mes dernières questions, oui, vous reprochent finalement d'être pas figure de proue.
C'est tout le contraire. On est leader hier. Alors là, vraiment, c'est de la mauvaise foi. Hier, par exemple, je prends un exemple, la propreté, enfin, vous savez, comment on appelle ça, le traitement des déchets. Vous savez, les ordures ménagères. Nous avons une délégation de services publics avec Suez. Eh bien, Suez nous a annoncé qu'on était les premiers de France à avoir mis en place un marché de performance. C'est-à-dire de faire en sorte de réduire nos déchets, l'impact écologique. Et on a mis en place tout un tas de dispositifs. C'est trop long pour vous l'expliquer là. Ils nous disaient, vous êtes les premiers en France. D'ailleurs, on a fait école. Nos services ont été invités à Montpellier pour donner des leçons, enfin donner des conseils, on va dire, à d'autres élus, donc à l'occurrence de cette région. Donc, on est premier sur plein de sujets, notamment sur le plan climat. On a été la première communauté, intercommunalité à s'emparer de ce sujet, bien avant qu'on ait problème de sécheresse d'aujourd'hui. Et sur, je ne parle pas des ressources en eau, où on est à la pointe aussi, puisqu'on a pris la compétence ressources en eau. On y travaillait encore tout à l'heure avec les services sur la GEMAPI, les rivières, enfin, c'est un peu technique, mais croyez qu'on est présent sur le photovoltaïque, toutes les économies d'énergie.
Je vous reviendrai, nous en
parler. Avec grand plaisir. Et puis voilà, et nous on crée de l'énergie. Par exemple, on va créer du gaz à partir de nos ordures ménagères. On a créé un réseau de chaleur qui est arrivé à point nommé quand on a eu le problème de chauffage de notre piscine. On est hyper à pointe sur tous les sujets.
Merci beaucoup Madame Barège d'avoir accepté l'invitation de CFM Radio. On se dit rendez-vous à très bientôt donc, pour faire un point sur l'avancée de vos derniers projets.
C'est très gentil, merci beaucoup.
Merci beaucoup, au revoir.
C'est le prochain.
Merci Kader. Rediffusion de cette émission ce soir entre 18h et 19h. Et on se retrouve prochainement avec un nouvel invité.
Jeudi 8 juin avec Michel Veil, président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne.
Merci Kader. À bientôt. À jeudi prochain.
Au revoir.